Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlot de Laclos. Lettre 106. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. À merveille, vicomte, et pour le coup, je vous aime à la fureur. Au reste, après la première de vos deux lettres, on pouvait s'attendre à la seconde. Aussi ne m'a-t-elle point étonnée. Et tandis que j'étais fière de vos succès à venir, vous en sollicitiez la récompense, et que vous me demandiez si j'étais prête. Je voyais bien que je n'avais pas tant besoin de me presser. Oui, d'honneur, en lisant le beau récit de cette scène tendre, et qui vous avait si vivement ému, en voyant votre retenue, digne des plus beaux temps de notre chevalerie, j'ai dit 20 fois, « Voilà une affaire manquée !» Mais c'est que cela ne pouvait pas être autrement. Que voulez-vous que fasse une pauvre femme qui se rend et qu'on ne prend pas? Ma foi, dans ce cas-là, il faut au moins sauver l'honneur. Et c'est ce qui a fait votre présidente. Je sais bien que pour moi, qui ai senti que la marche qu'elle a prise n'est vraiment pas sans quelque effet, je me propose d'en faire usage, pour mon compte, à la première occasion un peu sérieuse qui se présentera. Mais je promets bien que si celui pour qui j'en ferai les frais n'en profite pas mieux que vous, il peut assurément renoncer à moi pour toujours. Vous voilà donc absolument réduit à rien, et cela entre deux femmes, dont l'une était déjà au lendemain, et l'autre ne me demandait pas mieux que d'y être. Eh bien, vous allez croire que je me vante, et dire qu'il est facile de prophétiser après l'événement. Mais je peux vous jurer que je m'y attendais. C'est que réellement, vous n'avez pas le génie de votre état. Vous n'en savez que ce que vous en avez appris, et vous n'inventez rien. Aussi, dès que les circonstances ne se prêtent plus à vos formules d'usage et qu'il vous faut sortir de la route ordinaire, vous restez court comme un écolier. Enfin, un enfantillage d'une part. De l'autre, un retour de pruderie, parce qu'on ne les éprouve pas tous les jours, suffisent pour vous déconcerter et vous ne savez ni les prévenir, ni y remédier. Ah, vicomte, vicomte, vous m'apprenez à ne pas juger les hommes par leur succès. Et bientôt, il faudra dire de vous... Il fut brave un tel jour. Et quand vous avez fait sottise sur sottise, vous recourez à moi. Il semble que je n'ai rien autre chose à faire que de les réparer. Il est vrai que ce serait bien assez d'ouvrage. Quoi qu'il en soit de ces deux aventures, l'une est entreprise contre mon gré et je ne m'en mêle point. Pour l'autre, comme vous y avez mis quelque complaisance pour moi, j'en fais mon affaire. La lettre que je joins ici, que vous lirez d'abord et que vous remettrez ensuite à la petite Volange, est plus que suffisante pour vous la ramener. Mais, je vous en prie, donnez quelques soins à cet enfant. Et faisons-en, de concert, le désespoir de sa mère et de Gercourt. Il n'y a pas à craindre de forcer les doses. Je vois clairement que la petite personne n'en sera point effrayée. Et nos vues sur elle, une fois remplies, elle deviendra ce qu'elle pourra. Je me désintéresse entièrement sur son compte. J'avais eu quelque envie d'en faire au moins une intrigante subalterne, et de la prendre pour jouer les seconds sous moi, mais je vois qu'il n'y a pas d'étoffe. Elle a une sotte ingénuité qui n'a pas cédé même au spécifique que vous avez employé, lequel pourtant n'en manque guère. Et c'est selon moi la maladie la plus dangereuse que femme puisse avoir. Elle dénote, surtout, une faiblesse de caractère presque toujours incurable et qui s'oppose à tout. De sorte que, tandis que nous nous occuperions à former cette petite fille pour l'intrigue, nous n'en ferions qu'une femme facile. Or, je ne connais rien de si plat que cette facilité de bêtise qui se rend sans savoir ni comment ni pourquoi, uniquement parce qu'on l'attaque et qu'elle ne sait pas résister. Ces sortes de femmes ne sont absolument que des machines à plaisir. Vous me direz qu'il n'y a qu'à n'en faire que cela et que c'est assez pour nos projets. À la bonne heure. Mais n'oublions pas que de ces machines-là, tout le monde parvient bientôt à en connaître les ressorts et les moteurs. Ainsi que pour se servir de celles-ci sans danger, il faut se dépêcher, s'arrêter de bonne heure et la briser ensuite. À la vérité, les moyens ne nous manqueront pas pour nous en défaire, et Gercourt la fera toujours bien enfermée quand nous voudrons. Au fait, quand il ne pourra plus douter de sa déconvenue, quand elle sera bien publique et bien notoire, que nous importe qu'il se venge, pourvu qu'il ne se console pas. Ce que je dis du mari, vous le pensez sans doute de la mère. Ainsi, cela vous fait. Ce parti que je crois le meilleur, et auquel je me suis arrêtée, m'a décidé à mener la jeune personne un peu vite, comme vous verrez par ma lettre. Cela rend aussi très important de ne rien laisser entre ses mains qui puisse nous compromettre, et je vous prie d'y avoir attention. Cette précaution une fois prise, je me charge du moral, le reste vous regarde. Si pourtant nous voyons par la suite que l'ingénuité se corrige, nous serons toujours à temps de changer de projet. Il n'en aurait pas moins fallu, un jour ou l'autre, nous occuper de ce que nous allons faire. Dans aucun cas, nos soins ne seront perdus. Savez-vous que les miens ont risqué de l'être et que l'étoile de Gercourt a pensé l'emporter sur ma prudence? Madame de Volanges n'a-t-elle pas eu un moment de faiblesse maternelle? Ne voulait-elle pas donner sa fille à Danceny? C'est hélas qu'annonçait cet intérêt plus tendre que vous aviez remarqué le lendemain. C'est encore vous qui auriez été cause de ce beau chef-d'œuvre. Heureusement, la tendre mère m'en a écrit, et j'espère que ma réponse l'en dégoûtera. J'y parle tant de vertu, et surtout je la cajole tant, qu'elle doit trouver que j'ai raison. Je suis fâchée de n'avoir pas eu le temps de prendre copie de ma lettre pour vous édifier sur l'austérité de ma morale. Vous verriez comme je méprise les femmes assez dépravées pour avoir un amant. Il est si commode d'être rigoriste dans ses discours. Cela ne nuit jamais qu'aux autres et ne nous gêne aucunement. Et puis, je n'ignore pas que la bonne dame a eu ses petites faiblesses, comme une autre, dans son jeune temps, et je n'étais pas fâchée de l'humilier au moins dans sa conscience. Cela me consolait un peu des louanges que je lui donnais contre la mienne. C'est ainsi que, dans la même lettre, l'idée de nuire à Gercourt m'a donné le courage d'en dire du bien. Adieu, vicomte. J'approuve beaucoup le parti que vous prenez de rester quelque temps où vous êtes. Je n'ai point de moyens pour rater votre marche. Mais je vous invite à vous désennuyer avec notre commune pupille. Pour ce qui est de moi, malgré votre citation polie, vous voyez bien qu'il faut encore attendre. Et vous conviendrez sans doute que ce n'est pas ma faute. Lettre 107. À Zolan, au vicomte de Valmont. Monsieur, conformément à vos ordres, j'ai été, aussitôt la réception de votre lettre, chez Monsieur Bertrand, qui m'a remis les 25 louis, comme vous lui aviez ordonné. Je lui en avais demandé 2 de plus pour Philippe, à qui j'avais dit de partir sur le champ, comme monsieur me l'avait demandé, et qui n'avait pas d'argent. Mais monsieur, votre homme d'affaires, n'a pas voulu, en disant qu'il n'avait pas d'ordre de ça, de vous. J'ai donc été obligé de les donner 2 mois, et monsieur m'en tiendra compte, si c'est sa bonté. Philippe est parti hier au soir. Je lui ai bien recommandé de ne pas quitter le cabaret, afin qu'on puisse être sûr de le trouver, si on en a besoin. J'ai été tout de suite après chez madame la présidente pour voir mademoiselle Julie, mais elle était sortie, et je n'ai parlé qu'à la fleur, de qui je n'ai pu rien savoir, parce que depuis son arrivée, il n'avait été à l'hôtel qu'à l'heure des repas. C'est le second qui a fait tout le service, et monsieur sait bien que je ne connaissais pas celui-là. Mais j'ai commencé aujourd'hui. Je suis retournée ce matin chez mademoiselle Julie, et elle a paru bien aise de me voir. Je l'ai interrogée sur la cause du retour de sa maîtresse, mais elle m'a dit n'en rien savoir, et je crois qu'elle a dit vrai. Je lui ai reproché de ne pas m'avoir averti de son départ, et elle m'a assuré qu'elle ne l'avait su que le soir même, en allant coucher madame, si bien qu'elle a passé toute la nuit à ranger et que la pauvre fille n'a pas dormi 2 heures. Elle n'est sortie ce soir-là de la chambre de sa maîtresse qu'à 1 heure passée, et elle a laissé qu'il se mettait seulement à écrire. Le matin, madame de Tourvel, en partant, a remis une lettre au concierge du château. Mademoiselle Julie ne sait pas pour qui. Elle dit que c'était peut-être pour monsieur, mais monsieur ne m'en parle pas. Pendant tout le voyage, madame a eu un grand capuchon sur sa figure, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas la voir. Mais mademoiselle Julie croit être sûre qu'elle a pleuré souvent. Elle n'a pas dit une parole pendant la route, et elle n'a pas voulu s'arrêter à, toujours le même village, à moitié chemin de la route, comme elle avait fait en allant, ce qui n'a pas fait trop de plaisir à mademoiselle Julie, qui n'avait pas déjeuné. Mais, comme je lui ai dit, les maîtres sont les maîtres. En arrivant, madame s'est couchée, mais elle n'est restée au lit que 2 heures. En se levant, elle a fait venir son Suisse et lui a donné ordre de ne laisser rentrer personne. Elle n'a point fait de toilette du tout. Elle s'est mise à table pour dîner, mais elle n'a mangé qu'un peu de potage et elle en est sortie tout de suite. On lui a porté son café chez elle et mademoiselle Julie est entrée en même temps. Elle a trouvé sa maîtresse qui rangeait des papiers dans son secrétaire, et elle a vu que c'était des lettres. Je parierais bien que ce sont celles de monsieur. Et des 3 qui lui sont arrivées dans l'après-midi, il y en a une qu'elle avait encore devant elle tout au soir. Je suis bien sûre que c'est encore une de monsieur. Mais pourquoi donc est-ce qu'elle s'en est allée comme ça? Ça m'étonne, moi. Au reste, sûrement que monsieur le sait bien. Et ce ne sont pas mes affaires. Madame la présidente est allée l'après-midi dans la bibliothèque et y a pris 2 livres qu'elle a emportés dans son boudoir. Mais mademoiselle Julie assure qu'elle n'a pas lu dedans 1 quart d'heure dans toute la journée, et qu'elle n'a fait que lire cette lettre, rêver et être appuyée sur sa main. Comme j'ai imaginé que monsieur serait bien aise de savoir quels sont ces livres-là, et que mademoiselle Julie ne le savait pas, je me suis fait mener aujourd'hui dans la bibliothèque, sous prétexte de la voir. Il n'y a de vide que pour 2 livres. L'un est le second volume des Pensées chrétiennes, et l'autre le premier d'un livre qui a pour titre Clarisse. J'écris bien comme il y a. Monsieur saura peut-être ce que c'est. Hier au soir, madame n'a pas soupé. Elle n'a pris que du thé. Elle a sonné de bonne heure ce matin. Elle a demandé ses chevaux tout de suite. Et elle a été avant 9 heures au Feuillant, où elle a entendu la messe. Elle a voulu se confesser, mais son confesseur était absent. Et il ne reviendra pas de 8 à 10 jours. J'ai cru qu'il était bon de demander cela à monsieur. Elle est rentrée ensuite, elle a déjeuné et puis s'est mise à écrire. Elle y est restée jusqu'à près d'une heure. J'ai trouvé occasion de faire bientôt ce que monsieur désirait le plus, car c'est moi qui ai porté les lettres à la poste. Il n'y en avait pas pour madame de Volanges, mais j'en envoie une à monsieur qui était pour monsieur le président. Il m'a paru que ça devait être la plus intéressante. Il y en avait une aussi pour madame de Rosemonde, mais j'ai imaginé que monsieur la verrait toujours bien quand il voudrait, et je l'ai laissée partir. Au reste, monsieur saura bien tout, puisque madame la présidente lui écrit aussi. J'aurai par la suite toutes celles qu'il voudra, car c'est presque toujours mademoiselle Julie qui les remet aux gens, et elle m'a assuré que par amitié pour moi, et puis aussi pour monsieur, elle ferait volontiers ce que je voudrais. Elle n'a pas même voulu de l'argent que je lui ai offert, mais je pense bien que monsieur voudra lui faire quelques petits présents, et si c'est sa volonté, et qu'il veuille m'en charger, je saurai aisément ce qui lui fera plaisir. J'espère que monsieur ne trouvera pas que j'ai mis de la négligence à le servir, et j'ai bien à cœur de me justifier des reproches qu'il me fait. Si je n'ai pas su le départ de madame la présidente, c'est au contraire mon zèle pour le service de monsieur qui en est cause, puisque c'est lui qui m'a fait partir à 3 heures du matin. Ce qui fait que je n'ai pas vu mademoiselle Julie la veille, au soir, comme de coutume, ayant été couchée au tournebride pour ne pas réveiller dans le château. Quand est-ce que monsieur me reproche d'être souvent sans argent? D'abord, c'est que j'aime à me tenir proprement, comme monsieur peut voir. Et puis, il faut bien soutenir l'honneur de l'habit qu'on porte. Je sais bien que je devrais peut-être un peu épargner pour la suite, mais je me confie entièrement dans la générosité de monsieur, qui est si bon maître. Pour ce qui est d'entrer au service de madame de Tourvel, en restant à celui de monsieur, j'espère que monsieur ne l'exigera pas de moi. C'était bien différent chez madame la duchesse. Mais assurément, je n'irai pas porter la livrée, et encore une livrée de robe, après avoir eu l'honneur d'être chasseur de monsieur. Pour tout ce qui est du reste, monsieur peut disposer de celui qui a l'honneur d'être, avec autant de respect que d'affection, son très humble serviteur. Lettre 108. La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde. Ô mon indulgente mère, que j'ai de grâce à vous rendre, et que j'avais besoin de votre lettre. Je l'ai lue et relue sans cesse, je ne pouvais pas m'en détacher. Je lui dois les seuls moments moins pénibles que j'ai passés depuis mon départ. comme vous êtes bonne. La sagesse, la vertu savent donc compatir à la faiblesse. Vous avez pitié de mes maux. Ah, si vous les connaissiez, ils sont affreux. Je croyais avoir éprouvé les peines de l'amour, mais le tourment inexprimable, celui qu'il faut avoir senti pour en avoir l'idée, c'est de se séparer de ce qu'on aime, de s'en séparer pour toujours. Oui, la peine qui m'accable aujourd'hui reviendra demain, après-demain, toute ma vie. Mon Dieu, que je suis jeune encore, et qu'il me reste de temps à souffrir. Être soi-même l'artisan de son malheur, se déchirer le cœur de ses propres mains, et tandis qu'on souffre ces douleurs insupportables, sentir à chaque instant qu'on peut les faire cesser d'un mot, et que ce mot soit un crime. Ah, mon ami! Quand j'ai pris ce parti si pénible de m'éloigner de lui, j'espérais que l'absence augmenterait mon courage et mes forces. Combien je me suis trompée. Il semble, au contraire, qu'elle ait achevé de les détruire. J'avais plus à combattre, il est vrai. Mais, même en résistant, tout n'était pas privation. Au moins, je le voyais quelquefois. Souvent même, sans oser porter mes regards sur lui, je sentais les siens fixés sur moi. Oui, mon ami, je les sentais. Il semblait qu'ils réchauffassent mon âme. Et sans passer par mes yeux, il n'en arrivait pas moins à mon cœur. À présent, dans ma pénible solitude, isolée de tout ce qui m'est cher, tête à tête avec mon infortune, tous les moments de ma triste existence sont marqués par mes larmes, et rien n'en adoucit l'amertume. Nulle consolation ne se mêle à mes sacrifices. Et ce que j'ai fait jusqu'à présent n'ont servi qu'à me rendre plus douloureux ce qui me reste à faire. Hier encore, je l'ai bien vivement senti. Dans les lettres qu'on m'a remises, il y en avait une de lui. On était encore à deux pas de moi que je l'avais reconnu entre les autres. Je me suis levée involontairement, je tremblais, j'avais peine à cacher mon émotion. Et cet état n'était pas sans plaisir. Restée seule le moment d'après, cette trompeuse douceur s'est bientôt évanouie et ne m'a laissé qu'un sacrifice de plus à faire. En effet, pouvais-je ouvrir cette lettre que pourtant je brûlais de lire ? Par la fatalité qui me poursuit, les consolations qui paraissent se présenter à moi ne font, au contraire, que m'imposer de nouvelles privations, et celles-ci deviennent plus cruelles encore, par l'idée que M. de Valmont les partage. Le voilà enfin, ce nom qui m'occupe sans cesse, que j'ai eu tant de peine à écrire. L'espèce de reproche que vous m'en faites m'a véritablement alarmée. Je vous supplie de croire qu'une fausse honte n'a point altéré ma confiance en vous. Et pourquoi craindrais-je de le nommer ? Ah, je rougis de mes sentiments et non de l'objet qui les cause. Quel autre que lui est plus digne de les inspirer? Cependant, je ne sais pourquoi ce nom ne se présente point naturellement sous ma plume. Et cette fois encore, j'ai eu besoin de réflexion pour le placer. Je reviens à lui. Vous me demandez qu'il vous a paru vivement affecté de mon départ. Qu'a-t-il donc fait? Qu'a-t-il dit? A-t-il parlé de revenir à Paris? Je vous prie de l'en détourner autant que vous pourrez. S'il m'a bien jugé, il ne doit pas m'en vouloir de cette démarche. Mais il doit sentir aussi que c'est un parti pris sans retour. Un de mes plus grands tourments est de ne pas savoir ce qu'il pense. J'ai bien encore là sa lettre. Mais vous êtes sûrement de mon avis, je ne dois pas l'ouvrir. Ce n'est que par vous, mon indulgente amie, que je puis ne pas être entièrement séparée de lui. Je ne veux pas abuser de vos bontés. Je sens à merveille que vos lettres ne peuvent pas être longues. Mais vous ne refuserez pas deux mots à votre enfant, un pour soutenir son courage et l'autre pour l'en consoler. Adieu, ma respectable amie. Billy ran away from his home to find a way to live in peace. His mama didn't give a damn about him and his papa's on the run from the police. When Billy hit the city hit Billy. No one needs you when you're down and out. Then one kind guy with the painted eyes picked him up and bailed him out. Under one roof, sharing one moon, nobody cared about them. Under one roof, sharing. Daring the world to part them. Billy found it hard to find a job to make some pay. All day looking round, getting lit down, always being turned away. And Johnny was the only one who did.
didn't top in to Billy from above. And for the first time in his life, Billy found out what it felt like to be loved. Under one roof, sharing one love, nobody cared about them.
Lettre 109. Cécile Volange à la marquise de Merteuil. Ce n'est qu'aujourd'hui, madame, que j'ai remis à monsieur de Valbon la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Je l'ai gardée 4 jours, malgré les frayeurs que j'avais souvent qu'on ne la trouvât, mais je la cachais avec bien du soin. Et quand le chagrin me reprenait, je m'enfermais pour la relire. Je vois bien que ce que je croyais un si grand malheur n'en est presque pas un. Et il faut avouer qu'il y a bien du plaisir, de façon que je ne m'afflige presque plus. Il n'y a que l'idée de M. Danceny qui me tourmente toujours, quelquefois. Mais il y a déjà tout plein de moments où je n'y songe pas du tout. Aussi, c'est que M. de Valmont est bien aimable. Je me suis raccommodée avec lui depuis 2 jours. Ça m'a été bien facile, car je ne lui avais encore dit que 2 paroles, qu'il m'a dit que si j'avais quelque chose à lui dire, il viendrait le soir dans ma chambre, et je n'ai eu qu'à répondre que je le voulais bien. Et puis, dès qu'il y a été, il n'a pas paru plus fâché que ce jeu... Et puis, dès qu'il y a été, il n'a pas paru plus fâché que si je ne lui avais jamais rien fait. Il ne m'a grondé qu'après, et encore bien doucement. Et c'était d'une manière, tout comme vous, ce qui m'a prouvé qu'il avait aussi bien de l'amitié pour moi. Je ne saurais vous dire combien il m'a raconté de drôles de choses que je n'aurais jamais crues, particulièrement sur maman. Vous me feriez bien plaisir de me demander si tout cela est vrai. Ce qui est bien sûr, c'est que je ne pouvais pas me retenir de rire, si bien qu'une fois j'ai ri aux éclats, ce qui nous a fait bien peur, car maman aurait pu entendre. Et si elle était venue voir, qu'est-ce que je serais devenue? C'est bien pour le coup qu'elle m'aurait remise au couvent. Comme il faut être prudent et que, comme monsieur de Valmont m'a dit lui-même, pour rien au monde il ne voudrait risquer de me compromettre, nous sommes convenus que dorénavant, il viendrait seulement ouvrir la porte et que nous irions dans sa chambre. Pour là, il n'y a rien à craindre. J'y ai déjà été hier, et actuellement que je vous écris, j'attends encore qu'il vienne. À présent, madame, j'espère que vous ne me gronderez plus. Il y a pourtant une chose qui m'a bien surprise dans votre lettre. C'est que vous me demandez pour quand je serai mariée, au sujet de Danceny et de monsieur de Valmont. Il me semble qu'un jour à l'opéra, vous me disiez au contraire qu'une fois mariée, je ne pourrais plus aimer que mon mari, et qu'il me faudrait même oublier Danceny. Au reste, peut-être que j'avais mal entendu. Et j'aime bien mieux que cela soit autrement, parce qu'à présent, je ne craindrai plus tant le moment de mon mariage. Je le désire même, puisque j'aurai plus de liberté. Et j'espère qu'alors je pourrai m'arranger de façon à ne plus songer qu'à Danceny. Je sens bien que je ne serai véritablement heureuse qu'avec lui, car à présent, son idée me tourmente toujours, et je n'ai de bonheur que quand je ne peux pas penser à lui, ce qui est bien difficile. Dès que j'y pense, je redeviens chagrine tout de suite. Ce qui me console un peu, c'est que vous m'assurez que Danceny m'en aimera davantage. Mais en êtes-vous bien sûr? Oh oui, vous ne voudriez pas me tromper. C'est pourtant pesant que ce soit Danceny que j'aime et que monsieur de Valmont... Mais, comme vous dites, c'est peut-être un bonheur. Enfin, nous verrons. Je n'ai pas trop entendu ce que vous marquez au sujet de ma façon d'écrire. Il me semble que Danceny trouve mes lettres bien comme elles sont. Je sens pourtant bien que je ne dois rien lui dire de tout ce qui se passe avec M. de Valmont. Ainsi, vous n'avez que faire de craindre. Maman ne m'a point encore parlé de mon mariage. Mais laissez faire. Quand elle m'en parlera, puisque c'est pour m'attraper, je vous promets que je saurai mentir. Adieu, ma bien bonne amie. Je vous remercie bien et je vous promets que je n'oublierai jamais toutes vos bontés pour moi. Il faut que je finisse, car il est près d'une heure. Ainsi, M. de Valmont ne doit pas tarder.
Mm-hmm.